voix nue. Ce soir encore, hommage à Claude Jean-Philippe récemment disparu. En 2012, il rencontrait Carole Desbara. Tout de suite, l'avocat du cinéma.
Claude Jean-Philippe, bonsoir. Nous arrivons au terme de cette semaine. Nous avons essayé de retracer avec vous votre parcours d'homme de cinéma de terrain. Et je crois qu'il est largement temps maintenant de s'attaquer à cette question qui a traversé toute votre vie, qui est celle de la transmission. Ou bien plutôt, comme disait Jacques Tati de vous, cette façon que vous avez d'être l'avocat des films. Il me semble que très tôt, vous avez commencé à défendre des films, à les montrer, à les donner aux autres.
Oui, parce qu'il y a deux façons de regarder l'art, je crois. Hein. C'est la façon du collectionneur. Je le garde et même éventuellement je le mets dans mon coffre-fort. Il est à moi. Ou des amants jaloux, enfin, d'un côté, ce que je peux comprendre, mais en même temps, c'est dommage. Et l'autre façon, c'est la pédagogie. Tati m'avait fait ce grand compliment un jour de me dire « Vous êtes l'avocat du cinéma ». C'est vrai, mais rétrospectivement, quand je regarde ma vie... Le fait d'avoir péroré, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot, dans une salle de Casablanca en 1952, par exemple, alors que j'avais même pas 20 ans, c'était quand même quelque chose d'extravagant quand on y pense. Mais ça a été commencé là, et ça se termine tous les dimanches matins à l'Arlequin. Bon. Et de la même façon, d'une certaine façon, c'est. J'ai envie de vous faire partager. J'ai l'impression que si je suis tout seul à aimer ça, il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Alors, évidemment, il y a une tradition familiale. Mon grand-père, directeur d'école, ma mère, institutrice, la pédagogie, c'est vrai. Ma fille, qui enseigne, qui est agrégée de lettres et qui enseigne par vocation, elle aussi. Donc, il y a une transmission de ce côté-là, familiale. Mais il y a un plaisir que j'ai du mal à analyser parce qu'il est naturel, parce qu'il est spontané. C'est l'envie de faire partager des émotions, des découvertes, bon, etc., etc. Alors, ça s'est traduit dès l'IDEC avec mon absence de vocation de cinéaste, par la suite au service cinéma de l'ORTF, où avec Patrick Brion, on essayait quand même de choisir pour le dimanche après-midi les meilleurs petits westerns, malheureusement français, dont on disposait. Mais avec le même Patrick Brion, on se disait, mais quand même, la télévision se sert du cinéma d'une manière incroyable, enfin, parce qu'elle en remplit de ses cases de programmes pour divertir les gens. Et pourquoi la télévision, alors qu'elle est le mieux à même de le faire, ne servirait pas le cinéma, la culture cinématographique, en montrant des films. Alors, on a défendu l'idée devant 1, 2, 3 directeurs. Ils nous ont pas rayonné, c'était pire que ça. Ils nous regardaient comme si on disait des choses absolument extravagantes. Et sauf sa bague, à qui on en avait parlé, qui nous avait écoutés, et qui un jour m'a téléphoné en me disant Non, on commence un ciné-club dans 10 jours. Le film, c'est, je crois, le...
C'était le docteur Mabuse.
Le docteur Mabuse de Lang, un film muet. Hein.
Vous aviez choisi, parce que sur les textes qui vous concernent, c'est un peu ambigu. On se dit, le docteur Mabuse, ça peut être celui de 61 et ça peut être celui de 22. Vous aviez choisi le joueur,
absolument.
Vous avez joué la difficulté.
On a joué
noir et blanc et muet.
On a joué la difficulté et on a joué très bizarrement avec... avec Patrick, on avait quasiment accumulé un stock de possibles, enfin. Donc on avait déjà les films programmés, éventuellement. Sabag nous a écoutés. Sabag était une merveille de bonhomme. Ils disaient, ceux-là savent, on va faire ce qu'ils disent. Et on essaye. Il a placé le ciné-club à 10h du soir, c'est un dimanche. J'ai dit, mais il faut un générique, débrouillez-vous. J'ai pris une assistante monteuse sous la main. J'avais des photos, on les a bantitrées. J'avais cette musique que j'utilisais pour une de mes émissions, parce que je faisais une émission à l'époque qui s'appelait « Que reste-t-il de 1900 ?» Donc j'avais plein d'orgues de barbarie, etc. Il y en avait une qui me plaisait.
C'est une valse.
Voilà, c'est une valse, Waldteufel. Et avec l'assistante, on l'a montée sur le rythme de la musique. Et puis, personne n'imaginait, enfin en tout cas moi, je n'imaginais pas. Je pensais que c'était une expérience que tentait Sabag et que ça ne durerait pas... Ça marcherait pas forcément, etc. On n'était absolument pas sûr du fait que ça allait marcher. Et Sabag a donc placé le ciné-club à 10 heures, quitte à ce que les relais fassent des heures supplémentaires, ce qui était tout à fait nouveau, après minuit, parce que après minuit, il n'y avait plus de télévision à l'époque, en 71. Et puis un jour, enfin, on ne savait pas du tout comment les choses allaient se passer. Moi, je présentais le film dans le studio de la Speakerine, hein, regarde les yeux braqués sur la caméra de telle sorte qu'un critique m'avait pris pour M. le maudit. Enfin bon. Un jour, nouveau coup de téléphone de Sabag. Naon, ça marche. Et j'en ai la preuve. Il dit, comment vous avez la preuve? Il me dit, le relais de Paris s'est endormi dans la dimanche dernier. Si bien que le film a été coupé, le film c'était New York-Miami, et le standard de la télévision a été bloqué pour la première fois de son histoire, à minuit et demi, parce que les gens n'arrêtaient pas de téléphoner pour avoir la suite de New York-Miami. Donc oui. Il était sûr que ça marchait, qu'il y avait du monde. Ça a duré 21 ans, quoi, 25 ans.
Oui, 71-96.
Oui, voilà. Alors, avec la période bénie d'apostrophe, parce que Pivot avait accepté de... C'est qui était très très gentil de sa part après son émission qui quand même devait l'épuiser. Que vous dire là-dessus? On dit passeur, on dit. Je m'en rends compte avec l'Arlequin aujourd'hui. C'est le moment. Parce que je fais pas grand-chose de ma semaine. Je suis vraiment à la retraite. Et là, c'est le moment où je vis, quoi. C'est le moment du débat. Pas le moment de la présentation, parce que j'ai plutôt tendance à bafouiller là pendant la présentation, mais pendant le débat, alors là, j'écoute les gens et je suis très 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 curieux de ce qu'ils ont ressenti et des moments du film qui les ont touchés et de la façon dont ils en parlent. Et il se trouve que là, je touche du bois, il se trouve que il y a suffisamment de gens pour faire vivre ce ciné-club et qu'il y a du monde et que tout le monde est content.
Pour préparer cette émission, je suis venue plusieurs fois vous écouter. Le hasard fait que je suis tombée sur des séances exceptionnelles, c'est-à-dire des séances où vous présentiez des films qui visiblement ne vous plaisaient pas à outre mesure. C'était un hasard d'une avant-première à faire sur d'une part un film d'Atman, d'autre part Trois femmes, d'autre part Norman Jewison, qui n'est pas impérissable. Et je vous voyais faire et je me disais effectivement, c'est autre chose qu'à la télévision. Il n'aime pas, il ne va pas le dire. Et donc, que va-t-il faire? Et donc, j'ai vu que vous preniez le soin de faire parler les gens de la salle, les uns après les autres, et vous leur demandiez de faire ce que vous faites vous-même dans votre pratique de transmission, c'est-à-dire d'écrire. Et la première chose que vous avez demandé après le Altman, c'est décrivez-moi une image, décrivez-moi une scène, et effectivement, c'est vrai que ça sert d'embrayeur.
Alors là, il faut remonter à la façon dont j'ai appris à parler du cinéma. Alors, de deux façons. La première façon, ça a été les années 60 de Télérama, à l'époque où Télérama était vendu dans les églises exclusivement et où Jean-Pierre Chartier, Jean-Louis Tellenay, puisqu'il signait Jean-Pierre Chartier à la télévision et Jean-Louis Tellenay dans Télérama, donc m'avait engagé, j'étais pigiste, m'avait permis, disons, d'écrire mes premiers articles dans Télérama. Et au fur et à mesure que j'écrivais sur les films, la question qui se posait à moi était vraiment dure, parce que je me disais, mais ou bien ils l'ont vu, ou bien ils l'ont pas vu. S'ils l'ont pas vu, comment leur faire sentir ce que j'ai senti. Et c'est pas en racontant, c'est en évoquant. Voilà. C'est, j'ai tout de suite senti qu'il fallait évoquer plus que raconter. Et évoquer, ça n'est possible que si l'on va dans le détail des scènes. On peut dire qu'il y a un cœur dans le film, sans en remontant, sans aller à Citizen Kane et à la boule de verre. Mais il y a des films dont on se dit, il a fait le film à cause de ça, à cause de ce moment-là. Et si Renoir a fait partie de campagne à cause de la scène de la séduction. C'est vrai que il y a une impulsion première, qu'elle se traduit probablement chez certains cinéastes par une scène essentielle. Je sais pas moi, dans Los Olvidados, le moment où la mère tend dans le rêve de l'enfant, lui tend de la nourriture, enfin, en l'occurrence de je me dis que donc il faut faire le travail à l'envers, donc nous autres supposés critiques ou supposés spécialistes, essayer d'entrer dans le film jusqu'à son cœur vivant, quoi, jusqu'à ce moment où les choses se ramassent de telle sorte que le reste en découle. Voilà. Je suppose que c'est comme ça que vivent les films. Et que c'est comme ça qu'il faut en parler. Alors, en écrivant, j'ai essayé de faire ce travail, et surtout, j'ai essayé d'éviter au maximum, d'ailleurs douloureusement, parce que les mots vous viennent tout de suite, une mise en scène fluide, des acteurs admirables, je ne sais plus qui, impeccable, comme on fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je lis un tel impeccable, ça veut dire. Donc, d'essayer d'être précis, voilà, d'être aussi précis que possible, donc dans la description, comme vous dites, puisque c'est le mot de la précision. Donc j'ai essayé de progresser dans ce sens. C'est très exactement ce travail d'évocation que j'ai tenté de faire.
Et c'est ça qui fait que nous avons été fascinés, nous qui avons vu le ciné-club à la télé. Il faudrait souligner l'importance du ciné-club à cette époque-là, pour les cinéphiles de province.
Ah oui.
C'est quelque chose qu'on n'imagine pas, les jeunes générations n'imaginent pas aujourd'hui. Ils ont tous les films à disposition sur la longue traîne de l'Internet et de la toile, via les boutiques. Vous pouvez acheter à peu près tout. Et ce livre, votre livre dont vous croyez qu'il était épuisé, j'ai réussi à le trouver. Donc ça, c'est une chose, et on croit qu'on a accès à tout cela. Mais en fait, on n'y a pas accès parce qu'il n'y a pas de médiateur. Il n'y a pas de passeurs, et que si on ne vous a pas dit que Kiarostami, ça pouvait vous toucher, vous n'irez pas chercher Kiarostami. Et c'est peut-être ça le rôle aussi pédagogique, et moi je suis très heureuse que vous n'ayez pas peur de ce mot-là, le rôle pédagogique qui est le vôtre, mais je voudrais vous demander quel est votre plaisir de pédagogue.
Ah, ça c'est très mystérieux, hein. Là encore, c'est... Parce que c'est double, enfin c'est... Parce qu'en même temps, parce que c'est impossible. Parce que, pour en revenir à la critique et à l'histoire du cinéma, j'ai tout vu, hein, à mon âge, j'ai tout vu. J'ai vu le moment où Roger Lénard disait à Bafford, oui, vous vivez Wheeler. J'ai vu le moment où l'éloge de la profondeur de champ par Bazin, l'éloge du mouvement d'appareil et de la scène. J'ai tout vu, hein. J'ai vu toutes les théories, y compris jusque dans les années 70 où j'ai plus rien compris.
Vous parlez de la grande époque des années 70, des couvertures blanches, des cahiers dans lesquels c'était difficile à comprendre entre le maoïsme et le lacanisme le plus effréné.
Et oui, en même temps, le langage de la sémiologie auquel je ne comprenais rien. J'ai vu se succéder toutes les théories, hein, pour finalement voir soudain le montage réapparaître dans certains cas, pour voir le découpage classique revenir dans certains cas, pour découvrir que chacun redécouvrait le cinéma à sa façon, et particulièrement en France. C'est-à-dire que la spécialité française en matière de cinéma, c'est que c'est l'endroit, la France est l'endroit où on a vu des gens réinventer le cinéma pour leur propre compte. Quand quand Bresson décide de ne plus employer d'acteurs professionnels, il réinvente le cinéma pour son propre compte. Quand Renoir fait La Règle du jeu, il réinvente le cinéma lui aussi, sous les mouvements d'appareil de La Règle du jeu, il réinvente le cinéma pour son propre compte. C'est le cas de René au moment d'Hiroshima, où le montage réapparaît d'une autre façon. Pialard réinvente aussi le cinéma pour son propre compte en décidant de tourner comme il tourne, c'est-à-dire en ne cessant jamais de tourner, en espérant que la vérité va surgir à la faveur du tournage, etc. Bon, donc tout est permis. Tout est permis à condition que ça s'accomplisse et que ça devienne Les Dames du Bois de Boulogne, ou que ça devienne L'Enfance Nue.
Mais là, vous ne me parlez pas de votre plaisir à vous en tant qu'avocat du cinéma.
Mon plaisir, c'est comme celui de... On me demande souvent ce que c'est que la direction d'acteur. Hein, et je dis, il n'y en a pas. Tout se passe au moment du choix de l'acteur. C'est le choix du film qui est déterminant. Voilà. Si ce ciné-club de l'Arlequin marche, c'est parce que, plus encore que la télévision, je dispose vraiment de la possibilité d'élire dans chaque période du cinéma, dans chaque genre, dans chaque œuvre, ce qui me paraît le plus révélateur et le plus significatif ou le plus grand. Voilà, il y a des films que je m'interdis de passer parce que c'est petit ou c'est moyen par rapport à ce qui est à ma disposition. C'est ça qui est merveilleux avec la Cinémathèque universelle. C'est qu'elle est d'une richesse incroyable.
Mais si ça n'était que ça, vous présenteriez le film, vous laisseriez les spectateurs le voir, et vous n'auriez pas ensuite ce moment différent de la télévision, où vous êtes face au public, et où vous les faites parler. Vous êtes un peu comme un metteur en scène. Moi, je vous ai observé.
Comme un acteur, à vrai dire. Comme un acteur. Ça fait partie de mes vocations. Acteur, ça a été ma première vocation, après tout. C'est ça qui m'a sorti de... J'étais un adolescent obèse, un peu languide, et que tout le monde considérait comme nul. Et puis, du jour où quelqu'un m'a mis sur scène, voisin, et a décidé que j'étais pas gros, mais que j'étais une rondeur, donc un acteur, que j'avais donc ma place, quoi. Donc, et c'est là qu'a commencé, c'est là que ça a commencé. J'ai un peu honte de parler de moi comme ça, à tel point. Mais, vous savez, sur scène, on éprouve ce genre de sensation quand, soudain, on a réussi à faire silence, à faire que le public vous écoute, qu'il se taise, qu'il boive vos paroles. Ça n'est pas souvent arrivé, hein. Je dois dire que j'étais pas un acteur aussi brillant pour réussir ça. Mais je crois que c'est arrivé à tous les acteurs d'avoir ce moment-là, ce moment béni. Ça m'a beaucoup servi pour mes présentations d'une part, mais surtout pour mes débats. Enfin, je suis absolument persuadé. Et ça m'a servi aussi. Parce que ça, il faut en parler. D'ailleurs, je suis sûr que vous alliez en parler pour le cinéma des cinéastes. Parce que c'était une autre façon. C'est-à-dire que là, c'était un autre jeu. D'abord, ça durait beaucoup.
Alors, précisons que c'est sur France Culture. C'était une émission que vous faisiez avec Caroline Champetier et Pierre Donadieu. Et donc, c'est la transmission, mais à la radio, là.
Voilà. J'étais déjà plus âgé. J'avais dépassé la quarantaine largement. J'avais l'impression d'être dépassé par les événements, tant que j'ai éprouvé le désir de téléphoner à l'IDEC et de dire de envoyez-moi les gens de la dernière promotion pour qu'ils m'accompagnent et pour que je ne dise pas trop de sottises, enfin en tout cas des choses archaïques, quoi. Eux ils m'apporteront le vent de la nouveauté et le vent de la du goût chez ces garçons et les filles de 20 ans. Sauf que ça a été une fille, que ça a été Caroline. Évidemment, Pierre Donadieu a été un collaborateur très très intelligent et très fiable. Mais il s'est passé quelque chose avec Caroline. Il s'est passé quelque chose avec le bonhomme que j'étais et la fille que c'était. Une fille extraordinairement vive, intelligente, et en même temps très très dur quand quelque chose lui déplaisait, y compris chez moi d'ailleurs, y compris dans ma façon de parler des choses. Et ça a été, alors le pari c'était ça, c'était d'une part d'avoir Caroline et de dialoguer avec Caroline, y compris d'ailleurs jusqu'au conflit. Et puis il y avait aussi le fait que on était d'accord au moins sur un point, le principal c'était quand même le dialogue avec les cinéastes. Là, avec le cinéma des cinéastes, j'avais des jeunes. J'avais Stevenin ou Jaco, c'est-à-dire des gens, j'avais vu leur film et j'avais été estomaqué par le premier film de Stevenin qui était
Passe-Montagne,
qui était une merveille. J'avais une très grande admiration pour la classe évidente de Benoît Jaco dans sa mise en scène et dans son approche des personnages, etc. Bon, donc, et en même temps, je me confirmais dans une idée, je voyais Passe-Montagne d'un côté, je savais rien de Stevenin, mais rien. Je lui téléphone, il vient et je découvre que c'était le même, que c'était que l'émotion que j'avais ressentie en voyant le film, je la ressentais absolument différemment parce que autant le film est laconique, autant il est bavard, mais c'est la même sensibilité. Voilà, donc ça a été une très grande merveille. D'une part, la rencontre de Caroline, ça inoubliable.
Donc Caroline Champetit.
Ça a été une période bénie. Ça a été une période bénie avec Yves Jégu vient de mourir, donc je voudrais lui rendre hommage. C'était une période difficile, hein. C'était la période de Chantal Akerman, c'était cette période-là quand même, c'était une période de radicalisme, de bon, et il fallait la vivre, enfin il fallait la vivre comme elle était. Et je crois que le cinéma des cinéastes a rendu compte de cette vie-là, enfin de cette vie intérieure du jeune cinéma telle que elle se déroulait à l'époque.
Et c'est vrai que ça remplit cette fonction par rapport au présent. C'est vrai que le Ciné-Club d'Antenne 2 et de France 2 nous a permis de mieux comprendre le passé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec votre présence à l'Arlequin est différent. Parce que vous disiez... Le plus important, c'est le film. C'est comme Renoir qui dit que le film est fait à 90% lorsque l'acteur est choisi.
Oui, hein, oui.
C'est le casting.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui, pour vous, avocat du cinéma, va se passer lorsque vous êtes face à une salle. Et ça, vous n'avez pas encore parlé.
Non, mais je ne peux pas en parler, c'est à eux d'en parler.
Alors, moi, je vous proposais, je vois bien que vous ne voulez pas, j'essaie depuis un moment, je n'y arrive pas. Alors, je vais vous proposer une métaphore qui n'est pas de moi, mais qui est de Jean-Louis Borry. Et peut-être qu'elle vous intéressera.
Il était mon prof à Voltaire, vous savez.
Oui. Et il disait quelque chose de magnifique par rapport à ce que c'est que parler de cinéma dans une salle avec des gens en face de vous, à la différence de la radio, à la différence de la télé. Il disait que ce qu'il aimait, c'était éveiller les regards. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous aimez ça?
C'est ce à quoi j'essaye de parvenir. Pas toujours, hein. Mais là encore, je reviens à l'acteur. L'acteur qui, soudain, concentre sur lui... les regards et concentre sur lui l'attention. Et il y a des trucs pour ça. Il y a des trucs d'acteur. Il y a des provocations. J'essaye de les faire rire de temps en temps. Et puis de temps en temps, il y a soudain une intervention. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Une intervention de quelqu'un qui, soudain, est très, très éloquent et qui fait que les gens applaudissent. D'ailleurs, ce qui est très étonnant également, c'est une... Je n'aurais jamais demandé... Mais c'est l'applaudimètre. Les films sont applaudis après la projection. Et suivant l'applaudimètre, je me dis que ça a marché ou pas. Qu'ils ont été conquis ou simplement... Bon, ça peut aller très loin. C'est pour ça que je vous dis que le film est essentiel. Je me souviens d'une séance... Alors, j'étais gonflé quand même. Et c'était... Tout le monde dit I love you, hein. Le Woody Allen, qui est un film qui est resplendissant de charme, qui est envoûtant à cet égard, parce qu'on est vraiment sous le charme pendant toute la durée du film. On avait pu avoir ce film en avant-première. Je l'ai découvert avec eux. Et je tenais beaucoup à les découvrir avec eux. Je me suis levé, j'ai dit, écoutez, on est sous le charme. Et j'ai peur qu'en parlant, on dissipe ce charme. Voulez-vous qu'on fasse une chose? Exceptionnel qu'on se lève et qu'on reste sous le charme et qu'on parte. Et ils n'ont pas dit non. Vous parlez de transmettre. Ce qui est essentiel dans la transmission, c'est ça, c'est j'ai vécu ça avec vous. Et je tiens beaucoup, même si c'est un film que je connais par cœur, à le voir avec eux, même si c'est la règle du jeu, même si c'est l'Atalante. Il y a des films que j'ai vus plus de 20 fois. Mais je le vois une 21e fois avec eux, parce que je sais que je suis parmi eux et qu'ils ont ressenti quelque chose. Et que je suis là pour dire ce que j'ai ressenti, moi, bien entendu, et dire une fois de plus mon admiration pour ces films. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'ils ont ressenti, eux. Et que, à travers des mots, à travers quelquefois des choses un peu banales, je retienne dans ce que celui-là a dit, ce que cet autre-là a dit, ce qu'un troisième a dit, et brusquement que je ramasse. Voilà, c'est ça mon boulot. Mon boulot, c'est de... Ah, j'ai remarqué que dans toutes les interventions, un mot revenait. Et ce mot me permet d'enchaîner et de prendre la parole à mon tour, à la fois en m'excusant de prendre la parole, mais en même temps, on est bavard, on peut pas se refaire. Ah bon, ils me font la gentillesse de m'écouter, quoi.
Vous dites acteur, choix du film, les écouter, c'est leur sentiment qui compte, mais en même temps, je ramasse, je noue. C'est en fait un travail qui ressemble beaucoup au travail de l'enseignant.
Alors absolument, mais c'est le même. Alors là, absolument, oui. Non, mais si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait, j'aurais adoré, peut-être dans une autre discipline artistique, disons la littérature. J'aurais aimé parler de Simenon, par exemple, comme je parle de Renoir, oui.
Cet hommage à Claude Jean-Philippe, récemment disparu. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Gilles Davidas, Thomas Duterre, coordination Bellindola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.